Un jour, un livre, un auteur, toujours fidèle à ce rendez-vous. Philippe Nonni, Diego Arabal, bonjour tous les deux.
Bonjour Philippe.
Bonjour Philippe Cybercas. Bonjour Diego Arabal.
Bonjour mes amis.
Alors aujourd'hui, après, la semaine dernière, c'était Diego Arabal hein, qui a un petit peu travaillé. Aujourd'hui, c'est vous, Philippe Nonni, qui allez travailler, qui allez nous présenter.
Moi, je vais faire la sieste.
Voilà. Dans un sujet complètement différent de la semaine passée, mais tout aussi intéressant.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous laisse tout simplement le soin de nous présenter votre invité.
Allez, ça marche. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est une interview exceptionnelle avec une personne qui a un parcours professionnel remarquable et remarqué. Jugez plutôt. Il a dirigé les instituts français de Téhéran, Beyrouth, Alger. Il a été conseiller culturel au poste diplomatique franco-allemand d'Herat en Afghanistan. Il est aujourd'hui à la retraite, mais poursuit son œuvre insatiable en effectuant encore et encore, et toujours, des recherches archéologiques en Iran, pays où il se rend régulièrement. Il est également chercheur associé auprès de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. S'il nous accompagne aujourd'hui sur les ondes de présence, c'est pour parler d'un ouvrage remarquable et remarqué auquel il va falloir prêter attention, « La Perse et les racines chrétiennes de l'Occident », publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection « Iran en transition », collection dirigée par l'incontournable Atta Hayati qui est persan et que je remercie ici, Rele Mamnoun Ara Hayati, l'intéressé comprendra quand il écoutera l'émission. Bonjour Jean-Claude Voisin.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de présence, Jean-Claude Voisin. Alors, avant d'évoquer votre parcours, précisons donc que ce livre a été écrit par Charles Autran, que cette publication, c'est indiqué sur le livre, est une édition revue et augmentée par vos soins. Mais tout d'abord, comment on en arrive à effectuer un parcours comme le vôtre, Jean-Claude Voisin ?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que je suis né dans le Jura, ça fait déjà un paquet d'années, dans une ferme isolée. Mes parents étaient agriculteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, tous les matins, quand je me lève, je dis, mon Dieu, comme la vie est extraordinaire. Ce sont des rencontres, du travail, bien entendu, des passions qui ont fait que j'ai pu comme ça voilà, progresser et puis sauter sur des occasions, il n'y a pas d'autre mot. Et comme je suis quelqu'un qui adore la vie, qui adore les autres, alors que je suis fils unique et que mon ADN depuis tout petit était d'aller vers les autres, et très jeune, j'avais déjà cette envie, étant pourtant un rural, et pas entouré autour de moi de voyageurs, de diplomates, pas du tout. J'avais déjà cette envie et cette curiosité d'aller à la rencontre du monde, mais pas le monde géographique, touristique, non, les autres dans leurs différences. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas m'expliquer, mais toujours est-il, c'est qu'à l'heure où l'on se parle aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau de la vie magnifique. Et chaque fois, alors en ce moment que je repars en Iran, puisque j'y vais à peu près deux fois par an pour mes recherches, et puis dans ma belle famille qui est iranienne.
Voilà, parce que moi, votre épouse est iranienne, voilà, on précise.
Voilà, mon épouse est iranienne. Mais ce n'est pas pour ça que je m'intéresse à l'Iran. Je me suis intéressé à l'Iran avant. Elle a fait partie du paysage iranien, si je puis dire. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pour moi, c'est un cadeau extraordinaire de la vie. Donc, je dis merci, merci. Voilà.
Alors, on va revenir à cet ouvrage dont on parle aujourd'hui, « La Perse et les racines chrétiennes de l'Occident », publié aux éditions L'Harmattan, donc dans la collection « Iran en transition », donc qui a été écrit par Charles Autran. Qui était Charles Autran, Jean-Claude Voisin, et pourquoi a-t-il écrit cet ouvrage ?
Bien. Alors, il faut déjà savoir pour nos auditrices et nos auditeurs, s'ils allaient sur Google, qu'ils peuvent se méprendre parce qu'il y a apparaissent deux personnages connus, un homonyme aussi, Charles Autran, qui lui était de Cavaillon et qu'il était né en 1918. Il était un peu plus jeune que le mien et il était écrivain aussi, essayiste. Et c'était quelqu'un qui a beaucoup collaboré avec Max-Paul Fouché, que les anciens peuvent se souvenir au dossier de l'écran, ainsi de suite, ce grand homme de télévision. Et le comble du hasard, c'est qu'il avait créé avec Max-Paul Fouché, dans les premiers temps, puis ça va changer de nom, une revue qui s'appelait Mitra, et on en arrivera au livre dont on va parler ce matin. Mais le mien, si je puis dire, mon Charles Autran, il était... orientaliste, il va être pensionnaire pendant quelques années à l'Institut d'archéologie française au Caire, qui est encore un de nos grands instituts français d'archéologie à travers le monde et surtout dans le monde arabo-musulman. Et c'est là qu'il va côtoyer, si je puis dire, les civilisations du Proche, du Moyen-Orient et de ce nord de l'Afrique. Il va tout de suite être plutôt intéressé par les Phéniciens, donc le Liban aujourd'hui, les Sumériens, c'est la Mésopotamie, l'Irak, les bassins du Tigre et de l'Euphrate pour la cartographie d'aujourd'hui, et il va surtout se diriger dans ses recherches de toute une vie sur l'origine de l'écriture et les religions du livre. Et c'est ce qui va l'amener à présenter des thèses sur tous les sujets que je viens de dénoncer, mais des thèses, c'est ça qui était pour moi qui était intéressant, c'est qu'elles étaient à contre-courant de ce que le monde académique, le monde universitaire de l'époque écrivait, pensait ou racontait. Et donc il va être un peu en porte-à-faux par rapport à ses pairs, et c'est ce qui fait toute la saveur, je crois, de cette publication de 1935, et que Atta Hayati, que vous avez cité, notre collègue que j'admire beaucoup et que j'aime, iranien d'origine, qui dirige donc cette collection à l'Harmattan, il a eu cette idée de rééditer ce livre ancien, parce que c'est dans une problématique, et j'en parlais à l'œuvre d'Orient cette semaine, vous voyez, il n'y a pas longtemps, tout le monde était emballé de se dire c'est bien qu'on se pose de nouvelles questions. Mais on verra que ces questions, elles ne sont pas si nouvelles que ça, mais pas dans le grand public, bien entendu, chez les théologiens, chez les chercheurs, depuis le début du XXe siècle, voilà, on commençait à s'interroger sur le sujet qui est celui du livre de Charles Autran.
Alors, en quoi effectivement la Perse, hein, c'est le titre de votre ouvrage, hein, dont je rappelle, de l'ouvrage de Charles Autran, pardon, édition Revue Augmentée, dont je rappelle le titre, La Perse et les racines chrétiennes de l'Occident, publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Iran en transition, donc dirigée par le directeur de collection, donc Atta Hayati. En quoi la Perse a-t-elle pu nourrir les racines chrétiennes de l'Occident? Parce que ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un fait commun qui est connu au niveau européen.
C'est vrai, pas trop, dans le grand public, même s'il y a quand même, si vous voulez, dans le monde scientifique, mais c'est peu diffusé, vous le savez, de nombreux colloques depuis une trentaine d'années qui s'intéressent à ces rites orientaux, d'origine orientale, et qui vont inonder, si je puis dire, l'Occident, qui commence à se christianiser, mais qui sera dans les premiers temps en concurrence, justement. Le christianisme sera en concurrence avec ces rites orientaux. Mais la première des remarques que je voudrais faire, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, elle est d'une rare simplicité, mais elle est fondamentale. Moi, ce que j'observe depuis une trentaine d'années que je travaille sur le Proche et le Moyen-Orient, d'après le parcours que vous avez décrit, qu'est-ce que je remarque de manière très humble? C'est que toutes les grandes civilisations ont en commun ceci. Premièrement, si on parle de la Perse, vous devez imaginer qu'on parle de grandes civilisations depuis à peu près organisées, donc en tant que civilisation avec un État centralisateur, ainsi de suite, depuis à peu près 2500 ans avant le moment où l'on se parle. Là, pourquoi ces grandes civilisations portent-elles le qualificatif de grandes civilisations? Premièrement, elles ont duré très longtemps. ce qui est le cas des civilisations perses, où chacune des grands moments durait à peu près dans les dynasties 400 ans. Bon. Elles ont su, et ça c'est fondamental dans tous les domaines de la vie, elles ont su digérer les avancées des civilisations qui les ont précédées ou qui les entouraient dans leur secteur géographique. Et le troisième point, c'est qu'après avoir digéré donc toutes sortes d'emprunts dans ces civilisations qui les avaient précédées et qui avaient des acquis aussi dans l'avancée technologique, religieuse, économique, culturelle, elles vont retransmettre à d'autres ce qu'elles avaient digéré. Et c'est exactement le phénomène à travers la religion, à travers le christianisme qui nous anime ce matin, que l'on doit retenir, c'est la Perse sera dans les années, on va dire, du premier millénaire, donc 1000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée de l'islam, la Perse sera un carrefour extraordinaire de brassage d'idées qui seront pris dans toutes sortes de milieux environnants, des milieux côté irakien, syrien, byzantin, les milieux chinois, indiens, égyptiens, et tout ça va être petit à petit colporté pour arriver en Occident, mais avant d'arriver en Occident, pour rencontrer un jour à Bethléem la naissance du christianisme.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est pour ça que je trouvais, moi, qu'il était intéressant de parler de votre ouvrage, parce que parler de la Perse, hein, c'est l'autre nom de l'Iran, hein, mais c'était le nom, effectivement, précédent. Oui. C'est pas l'image qu'on a aujourd'hui de l'Iran, de voir un pays effectivement tolérant. Alors même, on en parlait avec vous l'autre jour, donc lorsque je vous ai appelé pour préparer cette émission, oui. Jean-Claude Voisin, vous me disiez, bon, à Téhéran, aujourd'hui, on trouve des synagogues, c'est-à-dire des lieux de culte, effectivement, pour les Juifs. On trouve des églises, notamment des églises orthodoxes, puisque beaucoup d'Arméniens, effectivement, lorsqu'il y a eu le génocide arménien, ont fui en Iran aujourd'hui et sont parfaitement intégrés aujourd'hui au niveau iranien, puisque de mémoire, je crois, c'était le ministre de l'Intérieur qui était donc arménien. Comment vous expliquez aujourd'hui que l'Iran, alors même qu'on a une image d'un pays intolérant, soit un pays à travers les âges qui ait pu intégrer toutes ces religions, et on en parlera après, notamment tout ce qui concerne les zoroastriens, mais on y viendra après. Comment vous expliquez ça ?
Oui, alors, c'est difficile d'expliquer simplement quelque chose de compliqué, mais ce qu'il faut, je pense, comprendre, juste un petit mot, c'est vrai que vous prononcez souvent le mot perse pour nos amis qui nous écoutent, à la place du mot Iran, vous avez évidemment tout à fait raison, sachez que la Perse s'est appelée en Perse dans le vocabulaire, quel qu'il soit, qui portait des noms scientifiques anciens avant le persan, la Perse s'appelait l'Iran. Pour les habitants de cette région, ça a toujours été Iran-Shah, c'est-à-dire le pays des Ariens. Et ce sont les Grecs qui, avec notamment Alexandre le Grand, va faire naître ce nom de Perse, parce que c'était les habitants qui étaient originaires d'une région qui s'appelait le Pars. Et le Pars, aujourd'hui, depuis l'islam, qui a imposé une nouvelle langue, qui va évoluer depuis la conquête arabe pour revenir un peu au persan, mais néanmoins, le vocabulaire, donc l'alphabet, va être imposé par la conquête arabe en 640, et il n'y a pas de P chez les Arabes. Donc, on va transformer le P en F, et aujourd'hui, c'est le Fars. Alors je dis ça pour ceux et celles qui éventuellement seraient partis comme vous en Iran et qui savez ce que c'est la région dont la capitale, la ville principale est Shiraz, pas loin de Persépolis.
Pas loin de Persépolis, tout à fait, de Tarchitjamshid
en persan. Alors, on en revient à ce problème de la tolérance. La tolérance, c'est drôle parce que moi j'ai le sentiment que plus l'humanité avance, moins elle est tolérante. C'est pas qu'en Iran, vous le savez bien. Et quand on prend l'histoire de la Perse, on est par exemple avec la première dynastie des Achéménides, donc ceux qui ont bâti Persépolis, Pasargade et d'autres grandes capitales de Ctésiphon à côté de Bagdad, on a là des gens qui sont qui sont tolérants. Pourquoi ? Parce que leurs empires, comme ça sera le cas de l'Empire romain d'ailleurs, leurs empires s'étendent jusqu'au Soudan, jusqu'en Bulgarie, jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Et donc c'est une mosaïque de cultures qui sont là. Et pour fédérer tout ça, on va laisser à chaque ethnie, à chaque nation qui avait été conquise et rassemblée dans un empire centralisateur, on va leur laisser toutes leurs prérogatives culturelles, cultuelles. Et donc, à partir de là, le seul devoir qu'avaient ces communautés, c'était de payer l'impôt. C'est ce qui intéressait le plus le gouvernement central.
C'est toujours valable aujourd'hui, Jean-Claude Voisin, ça n'a pas changé. Hein.
C'est vieux comme le monde. Et puis éventuellement servir dans les armées quand il y avait besoin. Et donc, sous les Achéménides, par exemple, il y a l'édit de Cyrus, qui est remarquable et qui assure dans un document qui est écrit sur la façade des Nations Unies à Genève, qui est une charte de tolérance édifiée, donc grosso modo 500 avant Jésus-Christ, en Perse, Achéménide, et qui donc assure la liberté de pensée, de croyance à tous ceux qui sont différents. Et les Achéménides vont d'ailleurs libérer les Juifs qui avaient été faits prisonniers à Babylone. Ils vont leur permettre de regagner la terre promise, donc Jérusalem, et ils financeront même la reconstruction du temple de Salomon. Voilà, ça c'est cette époque-là. Et ça va être comme ça, j'allais dire à peu près, jusqu'à l'arrivée de l'islam. Il y aura des périodes de persécution, parce que la vie de l'humanité est faite de haut, de bas, de choses magnifiques, de choses horribles, et par exemple, sous les Sassanides, qui est la dernière grande civilisation de l'Antiquité perse, on est entre 200 et 600 après Jésus-Christ, on va avoir des moments où les chrétiens seront privilégiés, et qui arrivent d'ailleurs en Perse très tôt, vers 250 après Jésus-Christ, les premières missions qui arrivent par la Syrie, par la Mésopotamie, et qui s'installent avec des églises. Bon. Et on aura des souverains perses, à certains moments, manipulés par la religion d'État qui voulait être dominatrice et monopolistique, qui est le zoroastrisme. Eh bien, on va avoir des persécutions. Et puis, on change de souverain et on revient, comme à Rome d'ailleurs. À Rome, on avait des empereurs, tout au début du christianisme, qui étaient pro-chrétiens, qui étaient anti-chrétiens. Dès qu'on changeait, il y en a un qui était assassiné ou empoisonné, puisque c'était la bonne, et on revenait à autre chose.
Les techniques donc, classiques.
Vous voyez ? Et donc, y en a qui prennent modèle, oui, qui ont lu. Et donc, on en arrive à l'islam. Et l'islam, moi, dans ce que je vois, puisque j'ai passé 25 ans dans le monde arabo-musulman, et que, enfin, vous avez expliqué, évidemment, pour moi, n'est pas, dans ce qu'en ont fait les hommes, n'est pas une religion très tolérante. Vous savez, la religion chrétienne, il faut quand même le dire et avoir le courage, il y a eu des époques très sombres où on n'était pas très tolérant non plus. Donc cet obscurantisme qui vient de ce que les hommes pensent des textes et de ce qu'ils veulent en faire, souvent dans des intérêts politiques d'ailleurs, eh bien, on va le retrouver partout. Et donc, dans l'islam, comme dans le christianisme, il y a quelques centaines d'années, enfin, je pense à l'Inquisition, enfin, ainsi de suite, il va y avoir ces excès en Irlande, vous voyez, pas besoin d'aller remonter à l'Antiquité classique. Et donc, en Iran, on va trouver voilà, cet aller-retour. Mais dans le fond, ce qui a toujours primé en Iran, d'après moi, d'après ce que je vois, c'est l'intérêt de l'unité de la nation iranienne. Et ce qui fait la force, et qui a fait la force des civilisations iraniennes, c'est cet amalgame deux cultures différentes. Et aujourd'hui encore, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, sachez que l'Iran est une mosaïque de cultures. Bon, c'est trois fois grand comme la France, quatre fois comme l'Allemagne. Donc c'est un pays, vous partez de Copenhague, vous allez à Gibraltar, vous êtes toujours en Iran. Et à travers ce territoire qui s'appelle l'Iran, vous avez toutes sortes de communautés culturelles, les Kurdes, les Baloutches, les Azéris qui sont turcs, les Turkmènes, vous voyez. Et donc, à partir de cette mosaïque, pour tenir la mosaïque, on ne peut pas persécuter tout le monde, parce qu'à ce moment-là, on persécute l'ensemble des peuples, si je puis dire. Il ne reste plus beaucoup un noyau qui correspondrait à une référence. Donc, ils sont un peu obligés de faire ça. Et c'est un peu dans les gènes, puisque l'histoire leur a enseigné que la force du pays, c'était la tolérance. Et donc aujourd'hui, vous avez ce paradoxe entre le respect des communautés iraniennes, qu'elles soient kurdes, juives, bouddhistes, zoroastriennes encore aujourd'hui, ou musulmanes. Vous avez ça de manière interne, avec des représentants, ce qui est extraordinaire, mais comme c'est un pays musulman, vous avez, que c'est une théocratie, vous avez ce mélange de politique et de religion, ce qui est difficile à comprendre en France, qui est le seul pays laïque au monde, où on a fait la séparation, mais là-bas, donc, c'est l'islam, tout est intimement lié. Les Iraniens et le gouvernement iranien fait la différence entre des juifs qui sont chez eux, qui sont des Iraniens à part entière et qui ont des députés au Parlement, avec le monde d'Israël qui, au plan politique pour eux, est un monde qui a volé la terre des Palestiniens. Donc, ils sont sionistes et le gouvernement actuel, enfin actuel depuis la République islamique, fait la guerre aux sionistes, pas aux juifs, parce que même en Israël, il y a beaucoup de familles juives qui sont ou nées, pour certains, en Iran, ou qui ont eu leurs parents, leurs grands-parents, qui ont vécu en Iran. Donc, on avait même des personnes dans d'anciens gouvernements, il y a 20 ans encore, plus aujourd'hui, qui étaient d'origine iranienne. Donc, vous voyez, c'est très paradoxal, mais l'histoire... Elle est compliquée parce qu'on voudrait l'expliquer simplement en noir et blanc. Et c'est jamais comme ça. Ça n'existe pas. Et la nuance, malheureusement, n'est plus de mise dans notre vie actuelle parce que tout va trop vite. Il faut comprendre très vite, on simplifie tout, surtout avec maintenant les réseaux sociaux. Donc, en simplifiant, vous déformez les choses parce que vous caricaturez les excès. C'est plus compliqué que ça.
C'est pour ça qu'on vous a invité, qu'on termine cette émission sur cette anecdote, alors en rappelant le titre de l'ouvrage auquel vous avez participé, Jean-Claude Voisin. Donc Charles Autran, La Perse et les racines chrétiennes de l'Occident, édition revue et augmentée par vous-même, donc par vos soins. C'est rien, c'est juste un poids qui vient de se tomber dans le studio. Aux éditions L'Harmattan, donc dans la collection Iran en transition. Voilà, moi je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité. On va revenir vers vous au mois de septembre quand on reprendra les émissions pour faire effectivement un point plus particulier sur la carrière que vous avez menée, les recherches que vous avez menées et surtout sur les Zoroastriens, parce qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler dans cette émission et on arrive au terme.
Ah, ça m'intéresse.
Et je pense que ça serait très intéressant parce que, bon, moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi effectivement en Iran. Oui. J'ai connu les Zoroastriens, les adorateurs donc, du feu. J'étais à Yazd avec les Tours du Silence. Et on fera une émission spécifique là-dessus avec vous sur le mois de septembre. On reviendra vers vous à ce moment-là. Et je verrai ça avec vous pour caler une date d'émission, Jean-Claude Voisin.
Écoutez, j'en suis très honoré, Philippe, ou les deux Philippe. J'aimerais juste vous souffler aussi que... j'ai fait des recherches, parce que alors là, ça vous concerne directement les gens du Midi-Languedoc pyrénéen, parce que j'ai fait des recherches sur une information qu'on m'avait donnée à Téhéran, sur la naissance d'un culte chrétien, catholique, dédié à deux martyrs d'origine perse. Le culte va partir de Arles-sur-Tech vers Perpignan.
D'accord.
Il va s'étendre en Espagne, mais dans tout votre Midi-Languedocien. et pour aller après jusqu'en Normandie, ainsi de suite. Les deux martyrs que l'Église dit d'origine perse, à chaque fois ils sont mentionnés comme ça, s'appelaient Abdon et Sénène. Et j'aimerais, parce que j'ai écrit un livre, quand on m'a donné cette information à Téhéran, d'un pèlerinage qui existait à Arles-sur-Tech, encore aujourd'hui, et qui attire beaucoup de monde, j'ai mené une enquête d'investigation archéologique et historique sur l'existence légendaire ou vraie, et la place dans tout l'Occident, surtout la France, d'Ancien Régime, du culte de ces deux martyrs. Et j'ai trouvé 120 paroisses en France, mais surtout concentrées dans le Midi, dans lesquelles on a représenté les martyrs en sculpture, en vitrail, sur des boiseries sculptées, avec des pièces en argent qui représentent leur buste, enfin des choses complètement folles. J'aimerais, dans la grande...
Ah, on va le faire, ça, c'est sûr. On va faire deux émissions, alors.
Oui, mais on peut distiller ça.
Une sur les Zoroastriens et l'autre sur ces deux martyrs. Il faudrait indiquer le culte du pèlerinage, parce que bon, Philippe Subercase est un grand pèlerin, hein, qui aime faire ses pèlerinages.
Je parlerai parce que j'y suis allé. Je suis allé à ce pèlerinage, j'ai voulu voir ce que c'était il y a 7-8 ans, et c'était extraordinaire. Je vous raconterai ça.
Allez, mais, ça marche. Merci beaucoup en tous les cas, Jean-Claude Voisin, d'avoir été notre invité. On se retrouve pour ces deux émissions en septembre, c'est promis. On prend date dès maintenant.
Merci.
On en a l'eau à la bouche. Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
Voilà.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.